À 15 ans, il avait déjà appris le silence. Extrait de Histoire de Mouad'Dib enfant par la princesse Irulan. Paul, luttant aux commandes de l'ornithoptère, prit conscience qu'ils échappaient à l'entrelacs des forces de la tempête. Ses facultés de perception, supérieures à celles d'un mentat, lui permettaient de sélectionner des informations multiples et précises. Il sentait tout autour de lui les fronts de poussière, les dépressions, les turbulences complexes et parfois le passage d'un tourbillon. La cabine de l'ornie était comme une boîte furieusement ballottée, baignée de la clarté verte des cadrans. Au dehors, le sable était une muraille ocre, lisse, semblait-il, sans la moindre faille. Pourtant, Paul commençait à voir au-delà. « Il me faut trouver le bon tourbillon », songea-t-il. Depuis un certain temps, il percevait l'affaiblissement de la tempête. Mais elle ne s'était pas encore éteinte et continuait de les secouer durement. Il guettait l'approche d'une autre turbulence. Le tourbillon apparut, comme une vague monstrueuse qui agita frénétiquement l'appareil. Paul repoussa toute trace de peur et inclina l'ornie sur la gauche. Jessica décela la manœuvre sur le globe de navigation. « Paul !» Le tourbillon s'empara d'eux, les saisit, les enveloppa. L'ornithoptère ne fut plus qu'une feuille sur un geyser, projeté, craché dans un torrent de poussière, dans la clarté de la seconde lune. Paul regarda vers le bas. Il vit le pilier de poussière formé par le vent torride qui les avait capturés, avalés puis dégorgés. Il vit la tempête mourante qui poursuivait son cours, comme un fleuve de sable dans le sable du désert, ruban gris de lune qui se faisait de plus en plus petit, comme l'ornie montait toujours plus haut. « Nous en sommes sortis, » dit Jessica. Paul fit glisser l'appareil hors de la poussière. Il épiait le ciel. « Nous leur avons échappé, » dit-il enfin. Jessica lutta pour ralentir les battements de son cœur, pour retrouver son calme, tout en regardant disparaître la tempête. Sa notion du temps lui disait qu'ils avaient voyagé au sein de ces forces naturelles pendant près de 4 heures. Mais pour une grande part de son esprit, cela avait duré le temps d'une vie. Il lui semblait renaître. C'était comme la litanie, se dit-elle. Nous avons fait face sans résister, et la tempête est passée au travers de nous, autour de nous. Elle a disparu. Et nous restons. Je n'aime pas le bruit que font les ailes, dit Paul. Elles ont dû être endommagées. Ses mains, tout en agissant sur les commandes, percevaient le changement, le vol plus lourd, difficile. Ils avaient échappé à la tempête, mais ils n'avaient pas encore atteint l'image que lui avait révélée sa vision presciente. Pourtant, ils étaient sauvés. Et Paul tremblait, au seuil d'une révélation. Il frissonna. C'était magnétique, terrifiant. Pourquoi ? Se demanda-t-il. Il sentait que c'était dû en partie à la nourriture, saturée d'épices. Mais cela pouvait s'expliquer aussi par la litanie, dont les paroles semblaient receler une puissance qui leur était propre. Je ne connaîtrai pas la peur. Cause et effet, il vivait en dépit des forces mauvaises, et il approchait d'une nouvelle perception. Qui, sans la litanie magique, n'aurait pu être. Des paroles de la Bible catholique orange flottèrent dans sa mémoire. Ne nous manque-t-il pas des sens qui nous permettent de voir et d'entendre cet autre monde qui est tout autour de nous? Il y a des rochers tout autour de nous, dit Jessica. Paul revint à l'ornithoptère. Il secoua la tête pour éclaircir ses idées et il regarda ce que lui désignait sa mère. Des rochers, noirs sur le sable, droit devant eux. Puis il sentit un souffle de vent sur ses chevilles, un frôlement de poussière dans la cabine. Il y avait un trou quelque part. « Il vaut mieux nous poser dans le sable, » dit Jessica. « Les ailes risquent de ne pas nous freiner suffisamment. » Du menton, il lui désigna quelques rochers qui émergeaient des dunes dans le clair de lune. « Nous allons nous poser là. » « Vérifiez votre harnachement. » Elle obéit et songea, Nous avons de l'eau, des distilles. Si nous pouvons nous procurer de la nourriture, nous réussirons à survivre longtemps dans le désert. C'est là que vivent les Fremen. Ce qu'ils peuvent, nous le pouvons aussi.
Dès que nous serons posés, courez vers ces rochers, dit Paul. Je prendrai le paquet.
Courir ? Elle hésita, acquiesça.
Oui, les vers.
Nos amis les vers. Ils s'empareront de cet ornithoptère et il n'y aura plus la moindre trace de notre passage.
Comme sa pensée est directe, songea-t-elle.
Ils glissaient vers le désert, toujours plus bas. Les ombres floues des dunes, les rochers comme des îles, se ruaient à leur rencontre. L'orni accrocha le faîte d'une dune avec un bruit soyeux, glissa dans un creux, aborda une autre dune.
Il utilise le sable comme un frein, pensa Jessica.
Elle admirait l'habileté de son fils.
Cramponnez-vous, lança Paul.
Il tira la commande de freinage à lui, d'abord très lentement, puis plus fort, à fond.
Il sentit les ailes bloquer la masse d'air. Le vent hurla dans les feuillures protectrices et les nervures.
Brusquement, l'aile gauche, après un faible frémissement, se replia contre le flanc de l'appareil qui escalada une dernière dune avant de s'incliner sur la gauche, piquant du nez dans une cascade de sable. L'orni s'immobilisa définitivement, son aile droite dressée vers les étoiles. Paul se débarrassa de son harnachement, passa devant sa mère et ouvrit rapidement la porte. Le sable du désert se déversa dans la cabine avec une senteur de silex. Paul s'empara du paquet à l'arrière de l'appareil, puis s'assura que sa mère s'était libérée de son harnachement. Elle escaladait déjà le siège de droite, puis de là, gagnait la coque de métal. Il la suivit, portant le paquet, et lança «
Courez !»
Il désignait une tour rocheuse qui se dressait dans le vent de sable, de l'autre côté de la dune la plus proche. Jessica s'élança dans le sable, trébuchante et glissant au flanc de la dune. Paul haletait derrière elle. Ils se retrouvèrent sur une crête de sable qui s'infléchissait en direction des rochers.
« Il faut la suivre, » dit Paul. « Nous irons plus vite. »
Ils reprirent leur course. Le sable s'agrippait à leurs pieds. Ils perçurent alors un son nouveau. Un sifflement, un chuchotement étouffé, un souffle grésillant.
« Un ver !» lança Paul.
Le son devint plus net.
« Plus vite !»
Le premier rocher, comme une plage sur le désert. Ils n'étaient plus qu'à 10 mètres devant eux lorsqu'ils entendirent le fracas du métal broyé. Paul saisit les liens du paquet dans sa main droite et de l'autre prit la main de sa mère. Il l'entraîna vers le haut, sur le sol caillouteux, dans un dédale rocheux sculpté par le vent. Dans leur gorge, leur souffle était brûlant, rêche.
« Pas plus loin !»
haleta Jessica. Il s'arrêta, la poussa dans l'abri d'un creux et se retourna pour observer le désert. Au large de l'île de Rocher, une dune courait. Vagues de sable, sillons au clair de lune, sillage distant 1 kilomètre environ, situé au niveau du regard de Paul. Il y eut un vaste mouvement dans les dunes. Une boucle se referma sur le désert, là où avait été l'ornithoptère. Il n'y avait plus trace de l'appareil. La dune en mouvement s'éloigna dans le désert, revint en arrière dans son sillage. Cela cherchait.
« C'est plus grand qu'un vaisseau de la guilde, » murmura Paul. « On m'avait bien dit que les vers atteignaient de très grandes tailles dans le désert profond. Mais... je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi énorme.
Moi non plus,
souffla Jessica. À nouveau, la chose se détourna des rochers et s'éloigna vers l'horizon. Ils prêtèrent l'oreille jusqu'à ce que le bruit de sa course se confondît avec les ruissellements du sable tout autour d'eux. Paul, alors, respira profondément, leva les yeux sur l'amoncellement de rochers givrés de clair de lune, et cita le Kitab Alibar. Voyage de nuit et repose à l'ombre tout le jour. Il regarda sa mère. Il nous reste encore quelques heures de nuit. Pourrez-vous continuer?
Dans un moment,
Paul s'avança sur le rocher, ajusta le paquet sur son épaule et prit un paracompas en main.
« Quand vous serez prête, » dit-il.
Elle s'approcha, sentant ses forces revenir.
« Dans quelle direction ?»«
Celle de cette chaîne. »«
Loin dans le désert, »
dit-elle. « Le désert des Fremen, » chuchota Paul.
Puis il se tut, revoyant soudain l'image précise qui lui était apparue une fois sur Caladan, dans un moment de préscience. Il avait vu ce désert,
mais dans sa vision, d'une façon subtilement différente.
L'image s'était infiltrée dans son esprit. Elle avait été absorbée par la mémoire. Et maintenant, projetée sur la scène réelle, elle n'était plus parfaite. Elle paraissait avoir changé et l'approcher, lui, sous un angle différent, tandis qu'il demeurait immobile.
Dans la vision, Idaho était avec nous, se souvint-il tout à coup. Mais à présent, il est mort.
Tu as trouvé un chemin ?
Demanda Jessica, se trompant sur le sens de son hésitation.
Non, dit-il, mais mettons-nous en marche.
Il raffermit ses épaules et s'avança dans un boyau rocheux creusé par le vent de sable. Le boyau débouchait sur une table de rochers baignés de lune qui, vers le sud, s'élevait en terrasses successives. Paul se mit en marche dans cette direction, entama l'escalade et Jessica le suivit. Elle prenait conscience de ce que les choses avaient d'immédiat, de particulier, à chaque pas. Les poches de sable entre les rochers, qui ralentissaient leur progression, les saillies aiguisées par le vent qui entaillait leurs mains, l'obstacle qui obligeait au choix, escalader ou contourner.
Le terrain leur imposait ses rythmes propres.
Ils ne parlaient que lorsque c'était absolument nécessaire, et alors, leur voix était rauque d'épuisement.
« Attention ici, le sable est glissant. »«
Ne vous cognez pas à la corniche, prenez garde. »« Restez dans l'ombre, la lune est derrière nous, et nos moindres gestes nous feraient repérer. »
Paul s'arrêta dans un renfoncement et appuya le paquet contre une étroite saillie rocheuse. Jessica l'imita, heureuse de cet instant de répit. Elle entendit Paul tirer sur le tube de son distille, et elle but, elle aussi, l'eau de son propre corps. Le goût en était saumâtre, et le souvenir des eaux de Caladan lui revint. Une haute fontaine enfermant une portion de ciel. Tant d'eau dans cette fontaine dont on ne remarquait que la forme, les reflets, le bruit lorsqu'on s'arrêtait auprès d'elle. S'arrêter, songea-t-elle. S'arrêter, se reposer, vraiment. Le véritable bonheur, c'était cela. La possibilité de s'arrêter, ne serait-ce que pour un moment. Autrement, il ne pouvait y avoir de bonheur. Paul se redressa et reprit l'escalade. Elle le suivit avec un soupir. Un vaste entablement descendait jusqu'à une muraille qu'il contournait. À nouveau, ce territoire brisé leur imposait son rythme irrégulier. Sous ses mains, sous ses pas, Jessica percevait dans la nuit les formes et les tailles jusqu'au plus extrême degré de petitesse. Roc ou gravier, cailloux, sable aggloméré, sable pulvérulent, poudre ou farine de sable. La poudre obstruait les filtres respiratoires et il fallait souffler pour la chasser. Le sable aggloméré et le gravier roulait sous les pas et pouvait provoquer une chute. Les éclats de rochers coupaient. Et les poches de sable omniprésentes semblaient collées aux pieds. Paul s'arrêta brusquement sur une avancée de rochers et il soutint Jessica. Puis il tendit le doigt vers la gauche et elle vit qu'il se trouvait en réalité au sommet d'une falaise qui dominait une portion de désert d'une hauteur de quelque 200 mètres. Le désert était comme une mer de vagues figées sous la lune, d'ombres acérées qui disparaissaient dans les creux et qui, dans le lointain, se fondaient dans la masse grise et imprécise d'un autre massif rocheux.
« Le désert ouvert, »
dit Jessica.
« Il nous faudra longtemps pour traverser. » La voix de Paul était étouffée par le filtre. Le regard de Jessica glissa de droite à gauche. il n'y avait que le sable. Paul observait des dunes. Là-bas, les ombres jouaient sous la lune lente. 3 ou 4 kilomètres, dit-il.
Les vers.
Certainement. Elle prit conscience de sa lassitude, de la douleur qui habitait chacun de ses muscles et affaiblissait ses sens.
Nous pourrions nous reposer et manger.
Paul se débarrassa du paquet, s'assit et s'appuya contre lui. Jessica mit une main sur son épaule pour conserver son équilibre et elle s'assit à son tour. Paul fouillait déjà dans le paquet.
Voilà, dit-il.
Elle sentit sa main sèche dans la sienne. Il déposa 2 capsules énergétiques au creux de sa paume. Elle les avala avec une gorgée d'eau qu'elle aspira au tube de son distille.
« Buvez toute votre eau, » dit Paul.
« Axiome, le corps est le meilleur endroit où conserver son eau. Elle maintient l'énergie, et ainsi on est plus fort. Faites confiance à votre distille. » Elle obéit et vida toutes les poches d'eau. Elle sentit alors son énergie revenir. Ce moment de lassitude et de repos était plein de tranquillité, et elle se rappela les paroles de Gurney Halleck. « Mieux vaut le calme et un maigre repas qu'une maison pleine de luttes et de doutes. »
Elle les répéta à l'intention de Paul.
« C'est bien de Gurney, » dit-il.
Et à son intonation, elle se rendit compte qu'il semblait parler d'un mort. Et elle songea,
« Mais ce pauvre Gurney est peut-être mort. »
Tous les gens d'Atreides étaient morts, ou prisonniers, ou perdu comme eux sur ce monde desséché.
Gurney trouvait toujours la citation appropriée, reprit Paul.
Je l'entends encore. J'assécherai les fleuves, je vendrai la terre aux méchants, et je rendrai le pays aride par la main des étrangers.
Jessica ferma les yeux, émue jusqu'aux larmes par la tristesse qu'elle percevait dans la voix de son fils.
Comment vous sentez-vous ? Demanda-t-il.
Elle comprit que la question concernait son état, et elle dit
« Ta sœur ne naîtra pas avant plusieurs mois, et je me sens encore physiquement en forme. »
« C'est mon fils, » songea-t-elle, « et je lui parle avec tant de froideur. »
Et puis, parce qu'une Bene Gesserit se devait de chercher en elle la réponse, elle pensa
« Je suis effrayée par mon fils. » Je crains son étrangeté, je crains ce qu'il peut voir au-devant de notre route, ce qu'il peut me dire.
Paul abaissa son capuchon sur ses yeux. Il écoutait les bruits infimes de la nuit. Ses poumons étaient emplis de son propre silence. Son nez le démangeait. Il le gratta, ôta le filtre de ses narines et décela alors la riche senteur de cannelle qui emplissait l'air.
« Il y a du mélange à proximité, » dit-il.
Un vent léger lui caressa les joues et fit flotter les plis de son burnous. C'était un vent qui n'annonçait nulle tempête, nulle menace. Déjà, Paul pouvait sentir cette différence.
« L'aube est proche, » dit-il.
Jessica acquiesça. « Il existe un moyen de traverser sans danger cette portion de désert. Les Fremen l'utilisent. »
« Et les vers ?»
Nous avons un marteleur dans notre Fremkit. Si nous le plantions dans ces rochers, le ver serait occupé pendant un certain temps. Le regard de Jessica glissa sur le fleuve blanc du désert jusqu'à l'autre rivage rocheux.
Assez de temps pour parcourir 4 kilomètres ? Demanda-t-elle.
Peut-être.
Et si nous réussissons à marcher en ne produisant que des bruits naturels qui n'attirent pas les vers ? Son regard demeurait fixé sur le désert. Il cherchait dans sa mémoire prescience, il retrouvait ces mystérieuses allusions aux marteleurs et aux hameçons à faiseurs qu'il avait lus dans le manuel du Fremkit. Et la terreur absolue qu'il éprouvait à la pensée des vers lui semblait bizarre. C'était comme si, juste au-delà de sa perception, résidait la certitude que les vers devaient être respectés et non craints.
Si...
Il secoua la tête. « Ce devrait être des bruits sans rythme, » dit Jessica.
« Comment ?»«
Oh oui. »
« Si nous brisons seulement notre démarche, le sable tombe de lui-même à certains moments.
Les vers ne peuvent se ruer sur n'importe quel bruit infime. Mais il faut que nous soyons tout à fait reposés pour cela. »
Il regarda en direction de l'autre massif de rochers, lisant le passage du temps dans les ombres verticales dessinées par la lune.
« Dans une heure, ce sera l'aube.
Où passerons-nous la journée ?»
Il se tourna sur la gauche et tendit la main.
« La falaise là-bas s'incline vers le nord. Vous pouvez voir que cette face est exposée au vent et nous y trouverons des crevasses profondes. »
« Ne ferions-nous pas mieux de partir tout de suite ?»
Il se releva et l'aida à se remettre sur ses pieds.
« Êtes-vous suffisamment reposé pour la descente ?»«
Je voudrais que nous soyons aussi près que possible du désert avant de monter la tente. »«
Suffisamment. »
Il hésita, puis reprit le paquet, l'assura sur ses épaules et se mit en marche.
« Si seulement nous avions des suspenseurs, » se dit Jessica.
« Ce serait si simple de sauter jusqu'en bas. »
Mais peut-être faut-il éviter d'employer les suspenseurs dans le désert profond. Peut-être attirent-ils les vers, tout comme les boucliers.